Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Beldic.
Bonjour, un salut à chacun de vous qui m'écoutez de l'autre côté du micro. Je vous souhaite une bonne journée. Yann Mince est notre invité cette semaine. Il est, vous le savez, le rédacteur en chef du magazine Alternative Internationale. Ravi de vous retrouver pour ce voyage au cœur de 7 jours d'événements, avec bien sûr les reportages de la rédaction. Nous partirons pour la Syrie et Israël, entre autres, dans la seconde partie de l'émission. Après le flash, rendez-vous avec vos messages, bien sûr, et avec l'actualité africaine. Vous pouvez suivre cette émission sur le site de la radio. RFI.fr et évidemment la podcast. Bonjour Yann Mince.
Bonjour.
Alors on peut lire Alternative Internationale aussi d'ailleurs sur une tablette, enfin sur son téléphone, hein, puisqu'il y a une application.
Il y a une application faite pour ça.
Alternative Internationale. Ravi de vous retrouver.
Et moi aussi.
Pour ce rendez-vous d'octobre. Alors commençons avec donc ce dernier numéro d'Alternative, Chine 15 cartes pour comprendre, et votre éditorial où vous parlez un petit peu de la responsabilité des journalistes dans la façon de présenter les choses. Autrement dit, vous parlez du poids des mots.
Du poids des mots, oui, absolument, du poids des mots et de certains mots précis, là, en l'occurrence, puisque ce que j'essaie d'expliquer dans cet éditorial, c'est que nous avons tendance, nous les journalistes, et ceux qui écrivent plus généralement, à généraliser en parlant...
Ceux qui parlent aussi. Hein.
Ceux qui parlent aussi, oui, mais ceux qui parlent, les mots s'envolent, alors que malheureusement, pour ceux qui écrivent, ils restent. Ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, ils restent. Et nous avons tendance, ou nous avons ce réflexe spontané, à généraliser en disant, par exemple, en l'occurrence, c'est sur le Moyen-Orient, les sunnites, les chiites, les juifs, les chrétiens, les druzes, etc. Comme si tous ces gens-là formaient une entité homogène, qui pensent tous la même chose, qui ont tous les mêmes réflexes, les mêmes intérêts, les mêmes envies, les mêmes peurs, etc. Ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'il faut être plus précis, il faut juste changer d'article. C'est juste un article. Au lieu de dire les, il faut dire des et préciser lesquels. Et à ce moment-là, effectivement, on se rend compte que, par exemple, pour un exemple de l'actualité, les Alaouites ne sont pas tous des supporters de Bachar al-Assad, même si probablement la majorité l'est, mais la majorité, c'est pas le tout. Ça veut dire qu'il y a des Alaouites qui sont aussi des opposants à Bachar al-Assad, soit des opposants explicites, soit des opposants qui se taisent parce qu'ils ont peur, mais voilà, on peut pas... C'est comme quand on dit les Français, c'est trop général.
Oui,
alors, ou les Maliens, ou les Burkinabés,
oui,
ou qui
bien sûr. Bien entendu. Alors, il faut donc signaler qu'il y a un dossier important sur la Chine. C'est l'incontournable Chine, en 15 cartes.
Oui, nous avons depuis, donc c'est la troisième fois que nous le faisons, en mois de septembre, la tradition maintenant de faire des articles à base de cartes, de textes courts qui font un petit feuillet, et puis à chaque fois une carte qui prend un aspect soit d'une région, soit d'un pays. On l'a fait pour le Moyen-Orient, on l'a fait pour la Russie, et cette année on l'a fait pour la Chine, pour deux raisons. Une raison qui est valable pour tous les pays, c'est que je crois qu'on ne comprend un pays, politiquement, sociologiquement, historiquement, que quand on sait où il est, que quand on sait comment il est fait à l'interne, et aussi...
De l'importance de la géographie. Aussi. On parle beaucoup de l'histoire, mais plus rarement de la géographie.
Et une partie des Français, sont pas très très doués parfois pour la géographie, et je crois assez légitimement, nous connaissons mal, ou c'est logiquement plutôt, nous connaissons mal la géographie intérieure de la Chine. Or, aussi à l'intérieur de la Chine, il se passe des choses extrêmement contrastées. On connaît le Tibet, on connaît un tout petit peu le Xinjiang, mais il y a d'autres régions qui ont des contrastes, à la fois économiques, démographiques, anthropologiques, ce qu'on veut, et c'est ce que nous essayons de montrer dans ce dossier, à travers des cartes thématiques, soit de la Chine, soit de la région dans laquelle se trouve la Chine, soit de province de Chine.
Ah Yann, est-ce que vous connaissez les Schtroumpfs ?
Oui, bien sûr, j'ai lu les Schtroumpfs quand j'étais petit.
Alors, si nous parlions des Schtroumpfs, pour nous détendre, si l'on peut dire, ce qu'a dit Edward Snowden à la BBC cette semaine n'a rien de drôle en réalité. Londres, mardi, Muriel Delcroix.
Pour son passage inédit dans l'émission phare Panorama, Edward Snowden frappe fort. L'informaticien américain réfugié à Moscou révèle, document à l'appui, l'existence d'un programme d'entraînement secret au sein du GCHQ, l'agence d'écoute britannique. Ce programme a pour nom de code les Schtroumpfs, d'après les personnages inventés par le dessinateur Peyot. Mais si le nom fait sourire, les capacités de ces Schtroumpfs-là font plutôt froid dans le dos. Edward Snowden au micro de la BBC.
Le Schtroumpf Rêveur est une fonction qui permet d'allumer ou d'éteindre votre portable sans que vous le sachiez. Le Schtroumpf Curieux est la fonction d'écoute par excellence. Par exemple, si votre téléphone est dans votre poche, ils peuvent activer le micro et écouter tout ce qui se dit autour de vous.
Et les capacités du programme ne s'arrêtent pas là. Le Schtroumpf Tracker permet lui de suivre quelqu'un avec une plus grande précision, tandis que le Schtroumpf Paranoïaque permet aux grandes oreilles du Royaume-Uni de protéger leur programme si jamais jamais un utilisateur tente de faire réparer son téléphone parce que quelque chose lui paraît suspect. Edward Snowden ne suggère pas pour autant que le GCHQ ou la NSA américaine cherchent à écouter en masse les communications privées, mais il prévient que les deux agences ont fortement investi pour pouvoir espionner n'importe quel smartphone. Le GCHQ s'est pour l'instant refusé à tout commentaire, mais ces révélations vont à nouveau mettre dans l'embarras le gouvernement Cameron, qui se défend depuis le début de toute activité illégale.
Sept jours dans le monde.
Et avant de vous retrouver, Yann Mince, les États-Unis et les excuses de Barack Obama, le prix Nobel de la paix, à MSF, prix Nobel de la paix aussi, après le bombardement américain de l'hôpital de Kunduz, qui a fait plus de 20 morts samedi. Pour Médecins sans frontières, ces excuses ne suffisent pas. Washington, mercredi, Anne-Marie Capomaccio.
Le président Obama s'est entretenu par téléphone avec la présidente des Médecins sans frontières afin de s'excuser et d'exprimer ses condoléances concernant les patients et les membres du personnel qui ont trouvé la mort ou ont été blessés lors du bombardement par erreur à l'hôpital MSF de Kunduz en Afghanistan le week-end dernier.
Les choses sont dites, le président des États-Unis s'est personnellement excusé auprès de Médecins sans frontières pour le bombardement de l'hôpital de Kunduz. L'armée américaine assume les conséquences de l'opération et si des responsabilités personnelles sont établies, des sanctions seront prises, assure la Maison-Blanche. Au cours de son entretien téléphonique avec le docteur Joanne Liu, présidente d'MSF, Barack Obama a promis une enquête approfondie et transparente sur la chaîne de décision qui a mené à ce raid meurtrier. Le porte-parole du président reste fixé sur l'investigation interne diligentée par le Pentagone. Josh Ernest n'a pas souhaité répondre sur l'éventualité d'une enquête internationale indépendante, comme le demande Médecins sans frontières avec insistance. Josh Ernest, enfin, parle d'une terrible et tragique erreur, mais refuse de se laisser entraîner sur le terrain du crime de guerre avancé par MSF.
Alors, il y a un auditeur qui s'appelle Ismail qui nous écrit « L'OTAN a bombardé l'hôpital de MSF à Kunduz. Quelle était la cause de ce bombardement ?» Alors, je précise, là, il faut que je précise une chose, que c'est le Yann Mince, administrateur de MSF, qui va parler, non plus le journaliste. Hein.
Non, je vais essayer de faire l'inverse. Je vais essayer de faire l'inverse. Je vais essayer de garder ma distance journalistique, même si, effectivement, je suis par ailleurs membre du conseil d'administration de MSF, mais je préfère que ce soit les responsables exécutifs de MSF qui parlent sur ce sujet en tant que tel. Moi, je vais essayer de garder la distance journalistique, mais c'est difficile de séparer complètement.
Et il faut préciser que c'est pas un bombardement, c'est plusieurs bombardements pendant une nuit.
Absolument. Hein, c'est-à-dire que d'abord il faut dire que MSF avait communiqué les coordonnées GPS de l'hôpital aux différentes autorités militaires américaines, l'OTAN, l'armée afghane. Donc tout le monde savait où se trouvait, était censé savoir, avait les moyens de savoir s'il voulait savoir où se trouvait l'hôpital. Ensuite, effectivement, l'hôpital a été bombardé et immédiatement les gens de MSF qui étaient sur place ont contacté les différentes armées qui étaient américaines notamment. Pour demander que ça cesse. Et ça a continué pendant, je crois, 45 minutes. Il faudrait vérifier la durée exacte, mais je crois que c'est ça, 45 minutes. Donc, effectivement, il y a eu quelque chose qui a été répété. C'était pas une fois. Alors, évidemment, une machine de guerre, probablement, je suis pas assez technicien des chaînes de commandement, mais une machine de guerre ne s'arrête peut-être pas de façon si aisée, mais quand même, je pense qu'un avion qui est en l'air aujourd'hui, avec les moyens de communication, on peut lui dire d'arrêter de tirer. Donc, la question, c'est de savoir s'il s'agit de négligence coupable, c'est-à-dire si les coordonnées GPS n'ont pas été transmises à un moment, et c'est une négligence coupable extrêmement grave, criminelle, puisqu'elle a conduit à des morts, ou bien si c'est délibéré. Et à ce moment-là, qui a pris la décision et pourquoi ?
Et pourquoi, oui. Pourquoi bombarder un hôpital ?
Alors, il y a eu des versions contradictoires qui ont été données. L'armée afghane, notamment, a dit qu'il y avait des combattants dans l'hôpital, ce que MSF nie absolument. Les responsables de MSF sur place nient absolument qu'il y ait eu le moindre combattant. Ensuite, on a parlé de combattants à proximité. Mais à proximité, c'est pas dans l'hôpital. Donc, est-ce qu'effectivement, l'armée afghane qui était sur place a demandé un appui aérien à l'armée américaine sans se soucier de préciser où c'était, mais les avions américains auraient dû à ce moment-là avoir les coordonnées GPS puisqu'elles leur avaient été transmises à l'armée américaine. Et par ailleurs, ce que je comprends, c'est que les autorités américaines ces derniers jours ont fait savoir qu'il y avait avec les troupes afghanes ou seuls, des conseillers militaires américains qui eux-mêmes étaient en relation avec les avions. Donc ces gens-là, eux, auraient dû au moins avoir les coordonnées. Donc c'est important, effectivement, je crois que Joanne Liu, la présidente de MSF International, a raison de demander une enquête indépendante, parce que plusieurs armées sont impliquées, l'armée afghane, l'armée américaine, l'OTAN plus largement, et il faut que ce soit une autorité extérieure qui puisse dire dans cette histoire ce qui s'est passé, et qu'on comprenne si c'est de la négligence coupable ou si c'est délibérément une attaque contre un hôpital, ce qui serait extrêmement grave.
Alors bien sûr, on va suivre cela sur RFI. Yann, Edward Snowden, bon, cet ex-employé de la CIA, de la NSA, réfugié à Moscou, il faut le préciser, qui nous parle des schtroumpfs, c'est assez effrayant, hein, ils ne sont pas drôles du tout, ces schtroumpfs-là.
Non, moi j'avais un souvenir effectivement de mes lectures de jeunesse, que les schtroumpfs étaient plutôt sympathiques, oui. Pas tous absolument sympathiques.
Il y avait grincheux, mais à part lui...
Le schtroumpf grognon était moins sympathique que les autres, il y avait d'autres méchants en face d'eux. Là, ce sont des schtroumpfs très inquiétants, et notamment le dernier que citait Muriel Delcroix, le schtroumpf paranoïaque, qui lui est carrément chargé d'empêcher la réparation du téléphone sur lequel elle était installée, ce qui est un degré de subtilité tout à fait terrifiant. Ce que j'espère, c'est que Edward Snowden a des informations inexactes. Ce que je crains, c'est qu'elles soient exactes.
Une semaine d'actualité.
Les Russes, Yann, frappent fort en Syrie. Apparemment, reste à savoir qui, précisément, les djihadistes de l'État islamique, mais aussi d'autres opposants dits modérés à Bachar el-Assad, Nicolas Falaise, jeudi.
Après sa spectaculaire entrée sur le théâtre militaire syrien la semaine dernière, la Russie intensifie son opération tout en adressant des messages très clairs. Tout d'abord, le soutien à Bachar el-Assad est réaffirmé et l'on voit se dessiner une offensive de l'armée syrienne au sol, appuyée par les bombardements russes. Le régime de Damas est militairement remis en selle par la seule volonté de ses alliés russes et iraniens, même si l'armée syrienne est exsangue après 4 années de guerre et désormais incapable de recruter les hommes dont elle a besoin sur le terrain. En intensifiant les frappes aériennes et en faisant intervenir ses navires de guerre, Moscou envoie un autre signal, adressé celui-là aux Occidentaux et à leurs alliés dans la région. Des missiles russes parcourant 1500 km entre la mer Caspienne et le territoire syrien. C'est une démonstration de puissance de la part d'un Vladimir Poutine qui, en quelques jours, a revendiqué une place centrale dans le conflit syrien et compte apparemment la conserver.
Alors, un pays s'irrite de cette intervention russe en particulier, c'est la Turquie. Il faut dire que son ciel, son espace aérien aurait été violé par l'aviation de Moscou à plusieurs reprises. Istanbul mercredi, Jérôme Bastion.
Il s'agit cette fois véritablement d'un harcèlement et non plus d'une erreur de navigation, comme évoqué pour le premier incident samedi. Selon l'état-major turc, plusieurs de leurs F-16 ont été verrouillés sur les radars d'un MiG-29. Autrement dit, l'appareil russe aurait placé les avions turcs en ligne de mire sur ses écrans et il était dans la possibilité de tirer. Une situation qui aurait duré 5 minutes environ, à une date et un endroit non précisés. Quand on dit appareil russe, il faut être précis. Il s'agit bien d'un MiG de fabrication russe, mais l'état-major turc n'affirme pas que l'avion volait sous les couleurs de la Russie. La Syrie utilise le même type d'appareil, donc le doute subsiste. Il n'en reste pas moins que c'est le troisième incident en 3 jours et que le président turc s'énerve. Monsieur Erdogan a dit hier que la patience de la Turquie avait ses limites et que la Russie aurait beaucoup à perdre si elle perdait l'amitié de la Turquie. Fin de citation. Les tensions entre Ankara et Moscou s'exacerbent depuis que la Russie a choisi de s'impliquer dans ce conflit pour défendre le régime du président syrien, alors que la Turquie réclame ouvertement le départ de Bachar el-Assad. Les Russes ont bombardé les positions des groupes rebelles alliés d'Ankara. Les Turcs reprochent, eux, à Moscou de protéger un dictateur et de se mêler de ceux qui ne les regardent pas. Hier, les deux chancelleries ont malgré tout prôné le dialogue pour régler leurs différends.
L'OTAN est prête à envoyer des troupes en Turquie pour défendre cet État membre contre les menaces pesant sur sa frontière sud. C'est ce qu'a indiqué jeudi le secrétaire général de l'Alliance Atlantique après ces violations répétées de l'espace aérien turc. Suite d'une semaine d'actualité, Yann Mince, les vives tensions entre Palestiniens et Israéliens ont gagné mercredi le centre même d'Israël. La Cisjordanie a continué, elle, à être agitée par des violences. Face à ces violences, Israël fait appel à des infiltrés. C'est ce que montre un reportage de l'AFP. Reportage de notre correspondant Nicolas Roper.
Comme les protestataires palestiniens, ils portent des baskets, des kéfiers palestiniens pour cacher leur visage et arborent des maillots de foot. Sur la vidéo de l'agence France Presse, on voit au moins 7 agents infiltrés jeter quelques pierres. Et puis au bout d'un moment, ils se font un signe, sortent leurs armes, tirent plusieurs coups et arrêtent 3 des lanceurs de pierres. Ces Moustaribines, littéralement ceux qui se déguisent en arabe, ont toujours existé, témoigne Abou Houssam, un Palestinien qui les a déjà vus à l'œuvre à Jérusalem.
Ce sont soit des Israéliens qui parlent parfaitement arabe ou des Arabes israéliens qui habitent en Israël. Ils travaillent pour l'armée, ils sont formés spécifiquement pour le combat. Mais c'est un phénomène que l'on connaît bien dans les forces israéliennes. D'habitude, ils arrêtent des gens et les emmènent côté israélien. Mais ce mercredi, ils ont tiré. Et ça, c'est nouveau.
L'armée israélienne confirme avoir parfois des agents infiltrés dans ces manifestations. Une méthode décriée par les Palestiniens qui assurent que ces agents encouragent les lanceurs de pierres avant de les arrêter. Alors que les affrontements se poursuivent en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, le Premier ministre israélien a annoncé en début de semaine des renforts pour l'armée et la police israélienne. Benjamin Netanyahou a promis, selon ses propres termes, de lutter contre le terrorisme jusqu'à la mort.
Suite d'une semaine d'actualité, on va commencer avec Israël. Yann, il y a eu des Palestiniens tués hier à Gaza. Ces derniers jours, on s'est tous demandé, enfin les observateurs, comme on dit, se sont demandé s'il n'y avait pas là le départ d'une nouvelle intifada, un nouveau soulèvement.
Je crois qu'honnêtement, personne ne peut prédire ce qui va se passer. Ce qui semble, c'est que ce soit plutôt des incidents spontanés, c'est-à-dire, je veux dire, pas organisés par un mouvement structuré, etc. Par ailleurs, ce qui me frappe, c'est que ce sont des mouvements faits avec des armes relativement artisanales, des couteaux, des choses comme ça. On n'est plus du tout dans les attentats suicides qu'on a connus dans le passé à certaines époques, ou les attentats tout court d'ailleurs, qui demandent une autre organisation logistique. Là, on a l'impression du désespoir d'une jeunesse. Alors, il se trouve que, et paru hier à peu près en même temps que ces tristes nouvelles, les derniers chiffres du chômage des jeunes dans le monde, et que effectivement, au Moyen-Orient, c'est la région qui est le Moyen-Orient, la région où le taux de chômage des jeunes est le plus élevé, et dans les territoires palestiniens, je crois qu'il est de 40%. Donc, il y a à la fois, je pense, une combinaison d'un désespoir social et d'un désespoir national, je dirais, puisque effectivement, là, on a affaire à des gens qui ont 20 ans, c'est-à-dire qu'en gros, qui sont nés en même temps que les accords d'Oslo. Et les accords d'Oslo, moi, je me souviens, on avait beaucoup d'espoir quand les accords ont été signés. J'étais le premier à avoir beaucoup d'espoir là-dessus.
La génération désenchantée, en fait, désespérée même.
C'est la génération de ceux qui ont vu que rien n'avançait et qu'au contraire, ça reculait. Quand je dis que ça reculait, c'est la colonisation israélienne dans les territoires, et notamment en Cisjordanie, n'a pas cessé d'augmenter. Et le nombre de colonies n'a pas cessé d'augmenter. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes gens? Ils sont en situation économique très mauvaise pour eux. Ils sont dans une situation où effectivement il y a très peu de chances qu'il y ait une création d'un État palestinien viable à moyen terme et peut-être même à long terme.
Donc leur horizon est totalement bouché.
Et en plus de ça, l'autorité palestinienne, en vertu des accords d'Oslo, coopère avec les services de sécurité israéliens pour éviter des explosions de violence, parce qu'effectivement, s'il y a des explosions de violence, le risque c'est qu'Israël réoccupe des villes palestiniennes à l'avenir, et ça veut dire que l'autorité palestinienne n'aurait plus de contrôle sur rien. Et effectivement, là, il y a une impasse totale, et moi je suis persuadé que depuis longtemps que le seul acteur dans cette histoire qui peut changer quelque chose, c'est l'opinion publique israélienne. Mais malheureusement, je ne vois pas beaucoup de traces de ça.
Alors Yann, il faut parler de M. Poutine, qui fêtait son anniversaire le 63e, il me semble, en jouant au hockey sur glace, et évidemment il a marqué beaucoup de buts, hein, parce qu'on l'a laissé marquer beaucoup de buts.
Évidemment. Ceux qui auraient marqué des buts contre lui, il aurait peut-être pas entendu.
Et bon, il est parti en guerre, donc.
Oui, ben si on lit le discours qu'avait fait Vladimir Poutine à l'Assemblée générale des Nations Unies, on se rend compte que il avait tendance à mettre à peu près dans le même sac tous les opposants syriens. C'est-à-dire que pour lui, tous ceux qui s'opposent, tous ceux CUX qui s'opposent à Bachar el-Assad, sont des terroristes, plus ou moins djihadistes, mais des terroristes. Et évidemment, dans ce cas-là, la logique des bombardements qu'on voit à l'œuvre depuis ces derniers jours, elle est parfaitement rationnelle. Il s'agit de taper sur tout ce qui s'oppose à Bachar el-Assad, et très honnêtement, sur le terrain, ceux qui s'opposent le plus à Bachar el-Assad, ce sont pas les gens de l'État islamique. Ce sont plutôt d'autres rebelles qui sont pas des djihadistes, qui peuvent être parfois des islamistes, mais pas des djihadistes avec un projet mondial. Ce sont parfois des gens qui sont pas du tout des islamistes. Et ce sont ceux-là, les adversaires les plus acharnés aujourd'hui de Bachar el-Assad sur le terrain, les plus dangereux, ceux qui le menacent. Et on voit bien que les bombardements les visent aussi. Donc, Bachar el-Assad, lui, l'État islamique, c'est un prétexte. Ce qu'il veut, c'est garder le pouvoir de Bachar el-Assad en place. Et pour ça, il a sorti l'artillerie lourde, c'est le cas de le dire.
C'est le cas de le dire, oui. Donc on va suivre ça, évidemment, dans nos journaux. Bien, nous allons marquer une pause, écouter quelques nouvelles du monde, et on se retrouve dans 3 grosses minutes. A tout de suite. Merci pour toutes ces nouvelles du monde. Retour à notre exploration de 7 jours d'actualité avec les reportages de la rédaction et notre invité. Notre invité Yann Mince, le rédacteur en chef du magazine Alternative Internationale dont le dernier numéro vient de sortir. Dans un instant, il sera question de l'Afrique, bien sûr. Nous partirons pour le Congo, le Cameroun, le Mali. Rendez-vous aussi avec vos messages.
Une semaine d'actualité.
Mais d'abord, comme d'habitude, Yann, un regard sur l'actualité française et d'abord sur des inondations particulièrement meurtrières dans le sud-est, sur la Côte d'Azur, le week-end dernier, 20 morts. Écoutez ce reportage signé Stéphane Burgat à Mandelieu, la Napoule.
Pris au piège dans leur propre parking souterrain, tous ont voulu sortir leur véhicule pour le mettre à l'abri avant d'être surpris par des trombes d'eau. Leurs corps sont remontés par des plongeurs, des sapeurs-pompiers qui progressent difficilement dans ce dédale sombre rempli d'eau boueuse. Sur les visages, on peut lire une multitude de sentiments. Des sentiments vifs, l'inquiétude pour Gérard Jean qui habite une résidence voisine.
J'ai un ami qui habite justement là. J'ai pas de ses nouvelles et je suis inquiet. Et comme il y a eu 7 morts, c'est très inquiétant.
Assis sur le capot de sa voiture détrempée, le regard perdu, Bertrand Dominique a lui perdu 2 amis dans l'inondation des sous-sols.
Il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus rien au sous-sol. Donc ils se sont perdus complètement dans le sous-sol et elles sont mortes dans le sous-sol. Et bien la pauvre, elle est entre 4 planches. Puis c'est tout. J'ai une boule. J'ai envie plutôt de chialer qu'autre chose. Je suis à bout.
D'autres, comme Franck Roualt, ont eu à l'inverse la chance de sortir juste à temps de ce piège souterrain.
Juste quand je suis remonté, après j'ai commencé à voir de l'eau qui déferlait de partout et les gens qui hurlaient et tout. Ah, je suis déboussolé. Ouais.
Et ce drame a fait au total 7 morts et un disparu dans ces 2 résidences.
Suite d'une semaine d'actualité en France et retour sur une image qui lundi, lors d'une négociation sur l'avenir de la France, a écorné pour le moins l'image de la France tout court. Une image déjà un peu abîmée, il faut le reconnaître, Patricia Lecomte.
L'image est choquante et va faire le tour du monde. On y voit le directeur des ressources humaines du groupe Air France, Xavier Brossetta, torse nu, chemise arrachée, exfiltré par le service d'ordre qui l'aide à escalader un grillage pour échapper au lynchage. Immédiatement, les organisations syndicales ont condamné l'agression. De son côté, la direction de la compagnie va déposer plainte pour violence aggravée, sans pour autant fermer sa porte, puisque dans l'après-midi, le PDG Alexandre Juniac a déclaré que la direction était disponible à tout moment pour reprendre les négociations. En déplacement à Tokyo, le Premier ministre Manuel Valls s'est dit scandalisé. Pour l'image du groupe, mais aussi au nom du dialogue social, la direction d'Air France et les syndicats ne peuvent rester sur un tel événement. Avant l'interruption violente de son CCE, l'entreprise avait confirmé son intention de supprimer près de 3000 postes et de se séparer de 14 avions. D'ores et déjà, le groupe annonce vouloir rentrer en contact avec le constructeur américain Boeing afin d'annuler sa commande d'avions 787.
Et les négociations ont repris. Cet incident reflète l'état de tension Air France, une compagnie qui subit de plein fouet la concurrence à la fois des compagnies low cost et celle des compagnies du Golfe pour les vols long courrier. Myriam Berber.
La grande époque où Air France était la référence de qualité du transport aérien est révolue. À partir des années 90, avec la déréglementation du ciel européen, les problèmes commencent pour la compagnie française. Après son mariage en 2003 avec KLM, Air France rate le virage du low cost. Sa filiale Transavia peine à rivaliser avec l'Irlandais Ryanair ou le Britannique EasyJet qui casse les prix. Dans le même temps, elle subit la concurrence acharnée des compagnies asiatiques et du Golfe. Aujourd'hui, Air France KLM est en danger, une flotte d'avions trop importante, des rapports sociaux compliqués. La faute également à l'État actionnaire à 16% de l'entreprise qui n'a pas soutenu le groupe, selon les syndicats. Sur le plan financier, sa valeur boursière est tombée sous les 2 milliards d'euros quand Ryanair en vaut 18. Le nouveau plan de restructuration de la direction prévoit de fermer des lignes long courrier et de réduire la flotte. La compagnie est en déclin alors que les perspectives de croissance du transport aérien sont de 6% par an jusqu'en 2020.
Votre attention s'il vous plaît, aéroport de Paris informe les passagers du vol Air France 6252 à destination de Bordeaux à récupérer leur bagage au tapis numéro 3.
Une semaine d'actualité.
Sur cette ambiance d'aéroport, Yann, parlons un petit peu donc d'Air France. Il est vrai que cette image d'un dirigeant d'Air France fuyant des manifestants torse nu avec la chemise arrachée fait un peu, comme on dit familièrement, désordre.
Oui, ça fait désordre, bien entendu. Alors, en même temps, c'est une violence parfaitement condamnable. Elle est restée, heureusement, limitée à une chemise déchirée et à quelqu'un qui doit partir. Un certain nombre d'observateurs ont fait remarquer que la violence sociale d'un plan social qui ont plusieurs milliers de personnes sont menacées, effectivement, est moins visible, moins médiatique.
D'après le Canard Enchaîné, d'ailleurs, il y a un plan plus important qui pourrait être déployé après l'élection présidentielle.
Je crois qu'Air France a nié cette information, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'était extrêmement choquant. Et à mon sens, ça nuit surtout, pas tellement à l'image de la France, encore peut-être un peu, mais aucun pays n'est à l'abri de ce genre de dérive, je crois. Ça nuit surtout à l'image du syndicalisme, c'est ça qui est grave, parce que le dialogue social, ça sert effectivement à ce que il puisse y avoir une négociation, qu'on puisse arriver à un consensus avec le moins de casse entre guillemets possible. Et effectivement, le dialogue social va être tendu. En même temps, je crois que le responsable de Air France, qui a été ainsi malmené, a plutôt bien réagi ensuite en disant qu'il fallait pas justement rompre le dialogue social et continuer, et qu'il est parfaitement conscient des, peut-être tardivement, mais en tout cas conscient maintenant des conséquences du plan social.
En tout cas, cet incident semble avoir débloqué en quelque sorte les choses, puisque les négociations ont repris et semblent fructueuses. Cette fois, c'est à suivre évidemment aussi sur notre antenne. Il y a une autre image forte, Yann, cette semaine, c'est celle de Marine Le Pen au Parlement de Strasbourg, s'adressant à Angela Merkel et à François Hollande côte à côte, et en disant à Angela Merkel, merci d'être venu avec votre vice-chancelier. Elle parlait de François Hollande.
Oui, Marine Le Pen est sans arrêt en train de jouer sur la corde anti-germanique. Ce n'est pas la seule. Jean-Luc Mélenchon, à l'autre extrême du spectre politique, avait
Était présent d'ailleurs ce jour-là.
Oui, qui exceptionnellement, comme Marine Le Pen. D'ailleurs, je crois qu'ils n'ont pas une grande présence au Parlement européen habituellement, mais là, quand il y a du beau linge, ils viennent.
Et les caméras de télévision.
Voilà, les caméras de télévision. Voilà. Et Jean-Luc Mélenchon avait de son côté sorti un livre il y a quelques mois qui était, je crois, une charge au vitriol assez caricaturale et, à mon sens, probablement assez malsaine contre l'Allemagne. Non, un pays qui est l'Allemagne, qui de fait est un pays plus peuplé, plus riche que la France, qui a aujourd'hui une influence importante. Dans certains cas, une influence qu'on peut juger peut-être négative, notamment dans le cas de la crise grecque et la crise de l'euro. Dans le cas de la crise des réfugiés, une influence plutôt positive. Oui. Donc, il faut aussi être extrêmement prudent. Et l'Europe, c'est aussi une négociation, c'est aussi une discussion. Et ça veut dire que la France ne peut pas gagner à tous les coups dans les négociations ou que ses vues prévalent. On peut vouloir sortir de l'Europe, mais à mon sens, ce serait suicidaire pour la France dans le monde d'aujourd'hui.
Dites-moi, Yann, à la page 48 de votre excellent journal Alternative Internationale, il y a un article qui s'intitule « Fume, c'est du journal ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas vous qui l'avez écrit. Hein.
C'est un chroniqueur qui écrit sous un pseudonyme. En l'occurrence, il s'agit d'expliquer que les journaux papier, ceux qui se vendent dans les kiosques, n'existent que tant qu'on les achète, tant que des lecteurs les achètent. Et c'est vrai que, là on parle à un micro d'une radio de service public, donc qui est financée par d'autres moyens, par l'impôt, et c'est très bien. Mais tous les médias ne sont pas financés par l'impôt. Je pense que c'est souhaitable que tous les médias ne soient pas financés par l'impôt, donc d'autres devaient être financés par les deux autres ressources qui restent, en gros, la publicité ou les acheteurs, ceux qui achètent ou qui n'achètent pas un journal. Et nous sommes tous capables de tuer un journal en ne l'achetant pas. Il suffit de ne pas acheter un journal pour qu'il disparaisse. Ça arrive tous les jours, ça arrive malheureusement, je le crains, de plus en plus. Et à contrario, il y a autre chose qui se développe, qui est très bien, qui est le numérique, qui est Internet, avec des médias sur Internet, mais c'est encore très difficile pour les gens qui font de l'information, pas du divertissement, mais de l'information, d'arriver à ce que les internautes payent pour cette information. Or, je crois que l'indépendance des médias ne sera assurée que si ce sont leurs lecteurs, d'abord et avant tout, qui les financent.
Jours en Afrique.
Au Congo, nous allons au Congo, Yann, avec l'annonce d'un référendum sur la nouvelle constitution qui permettrait au président Sassou Nguesso, au pouvoir depuis 1979, en gros, de se représenter. Brazzaville mardi, Louisien Martial.
Les électeurs congolais sont désormais fixés. Ils se rendront aux urnes le 25 octobre prochain pour se prononcer sur le projet de loi constitutionnelle. Celui-ci a été rédigé par une commission mise en place et qui a travaillé sans relâche. La dite commission avait comme terme de référence politique, juridique et technique les conclusions du dialogue national tenu il y a près de 3 mois à Sibiti et au cours duquel la plupart des participants s'étaient prononcés pour le changement de la loi fondamentale en vigueur depuis 2002. L'une des grandes innovations apportées par la nouvelle constitution sera la réduction de la durée du mandat présidentiel qui passera de 7 ans à 5 ans. L'annonce du référendum va à coup sûr donner lieu à de nombreuses réactions au plan interne et externe.
Alors l'annonce de ce référendum, parmi ces réactions, a été condamnée par les États-Unis. Selon Washington, la modification de la Constitution par un dirigeant dans un intérêt personnel ou politique ne bénéficie à aucune démocratie. Fin de citation. Pour Paris, la condamnation est, comment dire, plus timide. Laurent Martel.
Seule réaction officielle depuis que la date du référendum est fixée, celle des affaires étrangères, qui se bornent à renvoyer aux déclarations de François Hollande en novembre dernier. Quand on fait voter des peuples pour une constitution, on ne peut pas la modifier impunément, avait déclaré le président français, faisant allusion au Congo de Sassou Nguesso et au Burkina de Compaoré. En juillet, au terme d'une visite du président congolais, le ton semblait moins ferme. C'est la nécessité d'un consensus avant toute réforme que l'Élysée avait mise en avant. La position de fermeté du président n'a pas changé, rétorque-t-on dans son entourage, qui fait part de son inquiétude face à un référendum porteur de risques. Et le dialogue de Sibiti, qui sert de base au projet de nouvelle constitution, ne peut pas être considéré comme l'expression d'un consensus, car il a été rejeté par l'opposition et même certains membres de la majorité, précise cette source. Mais pour un ancien diplomate, la fermeté française reste souvent déclarative, mais peu suivie d'effets. Pour lui, la France ne porte pas assez régulièrement d'attention aux oppositions, ce qui explique qu'on la considère souvent du côté du pouvoir. La France n'est pas assez du côté de ses principes, c'est-à-dire pas assez du côté des peuples. Trop attentiste, elle réagit en retard à cette lame de fond qui se lève sur le continent, estime-t-il.
Alors Yann, la France pas assez du côté des peuples ?
C'est un sujet compliqué parce que si la France se mêle de la politique intérieure d'un pays, on l'accuse de néocolonialisme, d'ingérence, etc. Et si elle ne fait rien, on l'accuse d'indifférence. Donc c'est un exercice sur le fil du rasoir pour les diplomates. Ce que je crois, c'est que, en tout cas, les opposants devraient être reçus régulièrement et consultés par les ambassades, par exemple. J'espère que c'est fait, je suppose que c'est fait, par tous les ambassadeurs de France dans les différents pays d'Afrique, quelles que soient les préférences ou les utilités des présidents en question. Pourquoi je dis utilité ? Parce que si on prend le Tchad, par exemple, on a là un président, Idriss Déby, qui est là depuis longtemps aussi, 1980, je crois, par là, et dont la France a besoin parce que au Mali, il y a des soucis, parce que au Niger, il peut y en avoir, et parce que maintenant aussi, il y en a au Nigeria. Le président Sassou Nguesso est là depuis 1979, donc pas tout à fait l'époque où je lisais les Schtroumpfs, mais pas très loin. et je crois que la France en a besoin pour la crise centrafricaine. Donc il y a un certain nombre de chefs d'État africains qui ont bien compris que s'ils étaient utiles à l'extérieur de leur pays pour l'ordre régional, pour faire un peu le gendarme, ou en tout cas l'assistant gendarme, eh ben ça pouvait leur valoir une certaine complaisance sur le plan intérieur. Mais il y en a un autre qui est moins ami de la France, c'est le président Kagame, au Rwanda, qui lui aussi a tout d'un coup créé un mouvement spontané qui lui demande de rester encore longtemps. On a bien vu ce que ça a donné au Burkina, ça s'est bien terminé au Burkina, ça aurait pu mal se terminer au Burkina. Moi je crains que dans un pays comme le Congo, il y ait une exaspération telle que ça puisse finir mal, ce que je n'espère pas. J'espère c'est que la raison va l'emporter.
Alors l'événement, c'est demain l'élection présidentielle en Guinée. On espère que tout se passera bien.
Oui, on espère que tout se passera bien et que les résultats, la façon dont se déroule le scrutin sera suffisamment convaincante pour que tout le monde considère que les résultats correspondent aux souhaits des électeurs. Ça, c'est la première chose. Il faut que l'opposition ait confiance dans le fait que ça s'est bien passé et que ce qui sort des urnes reflète bien ce que veulent les Guinéens. Ensuite, il y a la question de la tension ethnique. Malheureusement, en Guinée, il y a eu souvent une lecture ethnique des affiliations partisanes. Et effectivement, la dernière fois, c'était un peu tout sauf les peuls contre Sylvain Diallo. Il faut espérer que ce ne sera pas la même chose cette fois-ci. En même temps, les alliances du principal opposant, et notamment son alliance avec le parti d'Addis Camara, sont un peu inquiétantes pour l'avenir de la Guinée. Mais il faut que les Guinéens puissent décider eux-mêmes, librement et régulièrement, de ce qu'ils souhaitent pour leur pays.
À souligner aussi dans le dernier numéro d'Alternative Internationale, Yann, un dossier intéressant sur Kinshasa et les arts. Le Kinshasa, laboratoire des arts.
Oui, parce qu'il y a une grande exposition en ce moment à Paris, à la Fondation Cartier. Et ça nous a semblé l'occasion pour nos lecteurs qui connaissent pas forcément très bien l'art contemporain africain, puisque là c'est bien l'art contemporain dont on parle. Quand on parle des arts africains, on a toujours l'impression que c'est les très belles statuettes qu'on voit au musée du Quai Branly ou dans d'autres endroits, mais qui sont des choses qui remontent à des décennies, des siècles, voire des millénaires. Il y a aussi aujourd'hui un art contemporain africain qui est moins connu, et c'est dommage, et c'est très bien que la Fondation Cartier ait décidé d'organiser cette exposition à Paris pour que justement les Français, notamment, puissent voir, enfin ceux qui sont en France en tout cas, les touristes aussi, puissent voir qu'il y a il y a une création qui n'a pas grand-chose à voir, même s'il a forcément des racines, pas grand-chose à voir avec ce que les stéréotypes nous présentent de l'art africain.
Une semaine d'actualité.
Ces derniers jours, Yann Nicolas Champeau, notre envoyé spécial à la frontière du Cameroun et du Nigeria, vous a proposé des reportages sur la guerre contre Boko Haram et la vie des populations de ces régions face à la guerre, tel celui-ci.
L'extrême nord du Cameroun est une région où l'arrivée de deux jeunes filles et d'un âne inconnu au village suffit pour semer la panique et déclencher en urgence une patrouille sous les ordres de Marcel Amougou, adjudant-chef dans le secteur de Mora, non loin de Kolofata.
J'ai aperçu des filles, elles avaient sur elles deux petits sauts sur la tête, comme les femmes qui sortaient de l'eau ou bien du champ, et qui, halte, quand elles s'est retournées, elles ont vu que c'était le métier. J'ai entendu une fois, boum, la première a déclenché sur la zone. Le temps est venu que si elle arrive, l'autre a déclenché. Elles étaient à peine à 100 mètres des premières maisons.
L'adjudant Amougou, la cinquantaine et le visage rond n'a pas été formé pour tirer sur des jeunes filles. Et ce 22 septembre, aucune trace de l'âne signalée par les villageois. Au beau milieu des hautes tiges de sorgho et de mil, l'adjudant avait des civils dans son champ de tir autour des deux suspects qui étaient à peine moins âgés que sa fille cadette.
C'est difficile d'identifier vraiment qui est Kameka parce que la population est très grande. C'est le gombo, le mil, passé par là. Donc beaucoup de gens défilent dans les champs. Donc c'est difficile, parce qu'ils n'ont pas une tenue identifiable. Vous voyez une dame, deux petits sauts sur la tête comme si elle rentrait du champ. On ne peut pas imaginer. Elle n'avait aucun signe d'une personne qui peut être kamikaze.
Les militaires sont habituellement peu disert sur leurs émotions, mais Marcel Amougou le reconnaît, il a été choqué.
Il y avait un corps qui était complètement déchiqueté. La première, elle a perdu sur la tête, qui était émiettée. On remettait les graines de chevaux dedans et les deux bras. Ça m'a traumatisé un peu. C'est l'événement le plus choquant de ma carrière.
Suite d'une semaine d'actualité avec cette fois un projet prometteur, il concerne les communautés de pasteurs dans le Sahel, c'est-à-dire au Mali, au Burkina, en Mauritanie, au Niger, au Sénégal et au Tchad. Il a été mis au point justement par les six pays. À Bamako, David Bachet nous a tout expliqué.
Six années seront nécessaires pour la réalisation de ce projet, dont le but est d'améliorer les conditions de travail de plus de 2 millions d'éleveurs au Sahel, en renforçant les services vétérinaires, en organisant les éleveurs, mais aussi en facilitant leur accès aux ressources naturelles. Jimmy Adoum, secrétaire exécutif du CILS, le comité inter-État qui met en œuvre ce projet.
Il n'y a pas de transhumance sans eau, il faut du fourrage. Il faudrait du pâturage, il faudrait de l'espace. Et c'est tout au long du parcours, surtout l'élevage sahélien qui va des pays sahéliens vers les pays côtiers. Il faudrait créer des points d'eau, créer des aires de parcage pendant la transhumance.
L'objectif est également de faciliter l'accès au marché et de trouver de nouveaux débouchés commerciaux, Jimmy Adoum.
Si on crée des abattoirs, par exemple, les pays du Golfe ont besoin de la viande. Nous avons cette viande-là qui est bio. Nous créons des abattoirs halal. On peut prendre cette viande-là halal de Niamey ou bien du Burkina Faso, du Tchad ou bien du Sénégal, l'envoyer directement au pays du Golfe. Vous allez voir l'impact que cela va avoir sur le revenu du pasteur.
Du pasteur et indirectement de l'économie nationale. À terme, les six pays sahéliens concernés espèrent augmenter de 30% le produit brut de leurs activités d'élevage.
Écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Continuez évidemment à nous écrire. Un bonjour aujourd'hui à Hassan à Tunis. Qu'est-ce qui empêche l'obtention d'un siège permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité? Y a-t-il des critères pour cela ou bien c'est tout simplement une manœuvre géostratégique des grandes puissances, se demande-t-il. Bonjour à Diémé. Pourquoi l'ONU est-elle faible devant Israël? Car on voit souvent Israël imposer son désir à l'ONU avec le soutien des États-Unis. Un salut également à Ange, à Douala. Bonjour à Flaubert, qui lui aussi vit au Cameroun, à Siaka, à Sigiri en Guinée, et à Belinda, une consoeur journaliste à Digital Congo TV à Kinshasa. D'une semaine d'actualité en compagnie toujours de Yann Mince, rédacteur en chef de l'excellent magazine Alternative International. Je salue également Mustapha au Togo, il vient de nous écrire également. J'ai choisi deux courriels qui parlaient de l'ONU parce que nous avions à votre place la semaine dernière Alain de Jamais qui était ambassadeur au Conseil de sécurité. Donc l'ONU toujours suscite toujours des questions et notamment la place de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité.
Le problème, ça rejoint un peu la question d'Israël, c'est que l'ONU est organisée d'une façon un peu étrange, mais qui a permis qu'il existe. Il y a d'un côté l'Assemblée Générale, où tous les États ont le même poids, et puis de l'autre côté, il y a le Conseil de Sécurité, où il y a 5 membres permanents et 10 qui tournent.
Plus égaux que d'autres.
Voilà. Et il y en a 10 qui tournent, donc on se relaye, mais les 5 permanents, donc on les connaît, hein, c'est les États-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, la Chine, ont un droit de veto. Et ils ont un droit de veto, notamment par exemple sur une résolution qui condamnerait Israël, les États-Unis pourraient, et ils le font régulièrement, dégainer, si je puis dire, droit de veto, mais aussi sur la réforme du Conseil de sécurité. On ne peut réformer le Conseil de sécurité qu'avec l'accord de tous les membres du Conseil de sécurité.
Donc on tourne en rond.
On tourne en rond, et du coup il y a tout un tas de formules que vous connaissez mieux que moi, puisque vous avez écrit des ouvrages sur l'ONU, qui ont été inventés pour avoir rajouté des membres non permanents, des membres permanents sans droit de veto. Mais fondamentalement, le problème, c'est aussi que si on rajoute une puissance africaine, très bien, on rajoute laquelle ? L'Afrique du Sud se considère comme le légitime détenteur potentiel de ce siège, mais le Nigeria aussi. L'Égypte dit pourquoi pas moi.
La question s'est posée en 2005, c'était la dernière tentative de réforme à ce jour.
On a la même chose d'Amérique latine, on dit le Brésil très bien, mais l'Argentine ou le Mexique disent pourquoi le Pakistan voudrait bien en Inde, puisque l'Inde veut y être aussi, etc. Et on tourne en rond, et je crains de ne pas voir cette réforme du Conseil de sécurité.
Alors, il y a eu cette semaine un certain nombre de reportages de Nicolas Champeau à la frontière. On entend les Africains parler de leurs craintes, de leur angoisse, et même des militaires, vous avez entendu dans ce reportage.
Oui. Bah, parce que ce militaire, tout militaire qui soit, est aussi un père de famille. Et c'est ce que disait Nicolas Champeau dans ce très bon papier, c'est effectivement, il n'a pas été formé pour tirer sur des jeunes filles. Et en plus, il a visiblement une fille lui-même qui est de l'âge, donc c'est forcément encore un peu plus traumatisant. Et puis ça se passe dans des villages où il n'y a jamais eu, je pense, avant d'attentats suicides, c'est des attentats. Enfin, quand on dit suicide, il faudrait voir si les jeunes filles ont déclenché elles-mêmes la charge, ou si c'est quelqu'un qui l'a déclenché pour elle à distance. Pour ça, je ne sais pas comment ça s'est passé dans le cas présent. Est-ce qu'elles étaient dans leur état normal? Est-ce qu'elles étaient vraiment volontaires ou droguées? Enfin, en tout cas volontaire, idéologisé, je dirais, mais c'est forcément quelque chose de très traumatisant, y compris pour un militaire aguerri.
Alors nous avons voulu mettre un sujet plutôt optimiste dans cette émission qui en manque un peu, il faut bien reconnaître, avec l'actualité sombre. C'est encourageant ce projet au Sahel.
C'est d'autant plus encourageant que je pense qu'un des verrous de la croissance économique des pays africains, c'est que leurs frontières entre eux s'ouvrent. On a encore des régions africaines où effectivement il est difficile de faire traverser des marchandises, y compris des marchandises sur pattes, comme le sont les ovins, d'un pays à l'autre. Il y a encore trop de taxes. C'est lié au fait aussi qu'une partie des budgets des pays africains, une partie importante des recettes des budgets des pays africains viennent des taxes douanières. Et effectivement, à ce moment-là, il n'y a pas forcément, quand on est gouvernement, on n'a pas forcément très intérêt à enlever des taxes, puisque c'est de ça qu'on vit. Tant que les Africains ne pourront pas payer d'autres formes d'impôts, l'impôt sur le revenu et d'autres, je pense que les États seront très dépendants des taxes et ça verrouille. Or, il y a des potentiels de commerce entre les pays africains pour la viande et pour d'autres produits, et tout ça c'est très verrouillé pour l'instant.
Alors un petit salut à Ronnie Bourman pour conclure cette émission qui, dans ce numéro comme dans les autres, signe une chronique que j'ai particulièrement bien aimée, intitulée « La légende libyenne de BHL », Bernard-Henri Lévy.
Oui, Ronnie était très, comment dire, circonspect dès le début sur le déclenchement, c'est moins qu'on puisse dire, sur le déclenchement de l'intervention occidentale en Libye, dans laquelle il a toujours douté du fait que la colonne dizaines de chars qui étaient censés s'avancer vers Benghazi et massacrer la population étaient vraiment aussi menaçantes et aussi nombreuses que ce qu'on a dit. Et en fait, là, ce qu'il cite, ce sont les emails de Hillary Clinton qui ont été révélés récemment par l'imprudence de cette dame qui était secrétaire d'État.
Ça pose bien des soucis d'ailleurs aujourd'hui pour sa campagne,
pour sa candidature à la présidentielle. Et donc, dans ces emails, elle dit en fait que notamment Nicolas Sarkozy avait déjà dealé, comme on dit maintenant, avec l'opposition libyenne bien avant cette intervention, notamment en échange éventuellement de contrats pétroliers. Donc tout ce que...
Vous voulez dire que BHL n'a pas sauvé le monde?
Je ne pense pas que BHL jamais sauvé. Je pense même qu'il aurait l'honnêteté de reconnaître qu'il n'a pas sauvé le monde et qu'il n'a même pas sauvé la Libye. Mais je me souviens quand même d'une image très drôle. À la fin de l'intervention libyenne, Cameron et Sarkozy étaient allés à Tripoli pour se faire acclamer par la foule libyenne. Et BHL avait essayé plusieurs fois de se mettre devant sur la tribune. Il avait été repoussé par le service d'ordre. Je pense qu'il avait dû en avoir un peu gros sur la patate.
Merci Yann Mince. Il faut donc lire Alternative Internationale. Le numéro 68 est sorti. Il est dans les kiosques, naturellement. Et on vous retrouvera à la fin de l'année pour notre rétrospective de l'année
avec grand plaisir.
2015. Une année particulièrement chargée. Merci Yann.
Merci à vous.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Et là, nous ferons, Yann, un bond en arrière de 3 siècles pour parler de la mort de Louis XIV le 1er septembre 1715 et surtout de l'héritage du roi Soleil, la création de l'État. Nous serons en compagnie d'un grand historien, spécialiste de cette époque du XVIIe siècle, Joël Cornette. Idée demain dimanche 17h10 avec l'article d'accompagnement de l'émission que je vous propose et que vous pouvez retrouver en cliquant sur la page d'accueil de l'émission Idée, un article sur le livre de Joël Cornette. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI bien sûr.